Une femme, Radio Zone 93.8.
Die Philosophie der Damen soll kurz, klar und elegant sein.
La philosophie des dames doit être courte, claire et élégante. Remue-ménage.
Komm mit mir, komm mit mir, komm mit mir aus Floß. Ich will dich, ich will dich, ich will dich bloß.
Und femme. C'est sur Radio Zone 93.8 et c'est tous les mercredis. Bonsoir et bienvenue dans Onde Femme Radio Zone 93.8. Oh là là, quelques petits problèmes de son. La technique, pourtant aujourd'hui, miracle, un Père Noël ou une Mère Noël est arrivé dans le studio de Radio Zone et nous avons aujourd'hui de nouveaux appareils. Alors c'est certainement la dame au pupitre que je suis qui n'est pas encore tout à fait habituée à ces nouveaux appareils et qui peut-être fera quelques petits couacs durant cette émission d'aujourd'hui. Alors remue-ménage, 17h-18h30, nous nous retrouvons comme tous les mercredis en direct. Vous pouvez donc nous appeler au 04 50 40 51 41, je répète 04 50 40 51 41 059 si vous appelez depuis la Suisse voisine. Pour nous dire ce que vous pensez de nos émissions, peut-être des propositions à nous faire et vous aussi participer à votre façon à la survie de notre radio puisque nous avons besoin de vous, vous le savez bien, c'est une banalité sur les ondes de Radio Zone. La radio a besoin de vous et c'est un geste très simple, c'est nous soutenir en achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 120 francs français en nous appelant au même numéro que cité tout à l'heure, le 04 50 40 51 41 059 depuis la Suisse. Vous nous donnez votre nom, votre prénom, adresse et nous vous envoyons la dite carte et vous nous renverrez votre participation. Aujourd'hui, dans Remue Ménage, eh bien, Planète Femme. Planète Femme, c'est le tour du monde, du moins avec des étapes dans certains pays, sur la plupart des continents, pour savoir ce qu'il arrive aux femmes. C'est des hommes et des femmes qui prennent la plume et qui nous parlent de la condition des femmes un peu partout dans le monde, en leur donnant la parole ou en relatant des faits qu'ils ont appris de par le monde. Aujourd'hui, eh bien, nous évoquerons la situation en Irak avec le témoignage d'une jeune femme. C'est plutôt son témoignage qui nous intéresse, vous verrez en l'occurrence, puisque cette jeune femme, eh bien, vous l'avez rencontrée cela il y a 15 jours dans une émission qui évoquait l'engagement d'une mère et de sa fille. Elles discutaient toutes les deux sur le thème de l'engagement. C'était Ariane Hasler, la jeune fille qui vient de partir en Irak avec une association qui se préoccupe de rompre le blocus imposé par l'ONU à l'Irak. Avec donc cette association est partie Ariane Hasler, qui discutait à l'époque avec sa maman Monique de l'engagement. Et elle nous donne son regard sur ce qui se passe en Irak aujourd'hui et des conséquences du blocus. Vous aurez aussi des nouvelles du Salvador, de l'Iran, de la Bulgarie, et puis si nous avons le temps, le Brésil, l'Érythrée. Et puis en toute fin d'émission, eh bien aussi une femme qui a pris la plume pour nous parler d'Oum Kalsoum, cette grande chanteuse égyptienne. Mais tout de suite, eh bien, nous retrouvons une chanteuse de chez nous, puisque c'est Monique Froidevaux dans le groupe Le Soldat Inconnu, et elle chante en allemand, une fois n'est pas coutume, « Warte auf mich ».
Ich will mir nur noch schnell die Spinnweben aus dem Gesicht, den Schuhen und Mantel zwäng ich mich hinein. Diesen Arm werd ich heben, dieser Finger löscht dann das Licht auf dem Weg bis zur Tür. Muss ich vorsichtig sein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein. Die Richtung, in die es mich zieht, der Dampf deines Atems verklärt meinen Blick. Über nachtschwarzen Häusern singt der Wind ein ratloses Lied, ein Bein ist das andere, nur ungern zurück. Warte. Warte, draußen ist es zu dunkel für einen allein. Warte auf mich, warte auf mich. Draußen ist es zu dunkel für einen allein.
Monique Froidevaux et le soldat inconnu, c'est dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8. Et comme tous les mercredis, nous évoquons la situation des femmes. Et aujourd'hui, c'est Planète Femme, la situation des femmes dans le monde.
Oui.
6 ans déjà que Saddam Hussein a perdu la guerre, mais il est toujours là, en Irak, comme l'embargo voulu par les Américains pour punir le dictateur irakien. L'embargo ne le chassera pas, mais il épuise la population. Les enfants, surtout, sont à bout de force. Ariane Hasler, avec qui nous évoquions il y a 15 jours la notion de l'engagement et qui nous expliquait que peut-être en tant que jeune femme de 20 ans, elle se sentait pas tout à fait prête à s'engager, qu'elle suivait un petit peu le mouvement de ses copains et copines qui se préoccupaient pas encore de grand-chose, même si elle, grâce entre autres avec les nombreuses discussions qu'elle avait avec sa mère, très engagée au sein d'Amnesty International, en particulier dans la section de Morges-Cossonay où elle est présidente, et bien grâce aux discussions avec sa mère, elle se posait sérieusement la question, mais elle avait plus envie, nous disait-elle à ce moment-là, d'imaginer son engagement sous forme de voyage dans ces pays où il y a des problèmes pour pouvoir ensuite témoigner de ce qu'elle avait vu. Eh bien, elle a fait cette démarche bien plus vite que nous l'imaginions, puisqu'elle vient de revenir d'Irak, où elle a justement vu ses enfants qui laissent mourir ses enfants, mais peut-être surtout à cause du poids de l'embargo imposé par les Américains et l'ONU. Elle est partie avec l'association Équilibre. L'association Équilibre, eh bien, c'est la première ONG européenne, organisation non gouvernementale, à établir un port humanitaire avec l'Irak, au nord comme au sud du pays. Il y a eu un premier convoi de 10 camions, dont 6 venaient de Jordanie, qui sont arrivés à Bagdad le 6 janvier. Et ainsi, l'association a pu rompre l'isolement international que vit l'Irak depuis 6 ans, depuis l'imposition de l'embargo. Alors dans ces camions, des médicaments, du matériel paramédical, des couvertures, de la nourriture, qui tout ça avait été transporté en ce début d'année et qui marque en fait le début d'une première distribution régulière dans tout l'Irak et l'ouverture d'une mission sur place. Alors, Équilibre a un petit dernier-né, c'est justement Équilibre Suisse. Cette association est d'origine française et Équilibre Suisse a financé un des 10 camions qui sont arrivés à Bagdad le 6 janvier. Et il y aura un autre camion suisse dans le prochain convoi. Et le prochain convoi, son départ est prévu fin février, début mars. Ici, il ne nous reste plus que la parole pour soigner les enfants. Tel est le terrible constat d'un des médecins du Ibn Baldi Hospital, hôpital pédiatrique situé près de Saddam City à Bagdad. Et ces paroles, eh bien, ce sont celles d'une femme médecin qu'a recueillie Ariane Hasler. Ariane, cette jeune femme de 20 ans qui vit à Morges et qui témoigne de ce qu'elle a vu en Irak. En 6 ans, les hôpitaux irakiens, reconnus avant la guerre pour la qualité de leurs soins, sont devenus de grandes maisons où seules les blouses blanches des docteurs rappellent un glorieux passé. Les médicaments, le matériel médical, les couveuses, les gants, tout manque. Les désinfectants également répondent absents parce que leurs composants peuvent entrer dans la fabrication d'armes chimiques. Et pourtant, on soigne comme on peut. Dans les odeurs d'urine, de maladie et de mort, dans la crasse et la misère, on soigne malgré tout. Ici, du crâne monstrueusement gros d'une petite fille dépasse une seringue. Elle est tenue avec du plâtre, l'ultime adhésif, entre guillemets, qu'il soit facile à faire et à trouver. Là-bas, c'est un chiffon sale qui bouche une couveuse où repose une minuscule chose toute plissée qui, annonce le docteur, ne survivra pas. Certaines fois, les thermomètres sont cassés dans les couveuses et les enfants se font brûler, rajoute-t-il. Dans la pièce d'à côté, 2 jambes et un petit ventre surgissent d'un pull couvert de taches rouges et bleues, comme des ecchymoses. C'est un des moultes effets de la malnutrition. Selon les rapports des agences humanitaires de l'ONU, les sanctions internationales faisant suite à la guerre du Golfe ont entraîné la mort de 560 000 enfants irakiens de moins de 5 ans entre février 1991 et décembre 1995. Je répète, entraîné la mort de 560 000 enfants irakiens de moins de 5 ans. Leur système immunitaire, rendu fragile par la malnutrition, en font en effet des proies de choix pour toutes les maladies qui sont réapparues depuis quelques années en Irak. Le choléra, la typhoïde, le paludisme, etc. Et bien sûr, les médicaments manquent. Mais il en existe un qui ne coûte rien et qui, au miracle, n'est pas considéré comme dangereux par les Nations Unies. C'est l'amour de ces femmes en noir, de ces mères qui veillent inlassablement. Elles sont assises sur les matelas tachés et les couvertures déchirées, quand il y en a. Elles sont couchées par terre, elles attendent. Elles attendent peut-être le traitement tout simple qui pourrait éviter qu'une diarrhée soit mortelle ou qu'une infection des bronches soit fatale. Mais pour l'instant, elles ne reçoivent que le réconfort de la présence des médecins et elles n'ont qu'une certitude. Si quelque chose peut être fait pour leurs enfants, entre tous les endroits, c'est ici qu'il faut être. Et malgré leur impuissance et malgré cette injustice qui fait mourir leurs enfants, elles sourient à l'étrangère que je suis. Des sourires spontanés et magnifiques. Nous partons maintenant au Salvador. Au Salvador, grâce au témoignage de Virginia Hernandez. Virginia a goûté au régime des zones franches au Salvador et depuis 1992, elle dénonce vigoureusement cette horreur économique. De syndicaliste, femme à poigne, Virginia Hernandez s'est forgée une solide expérience en matière de lutte syndicale au Salvador. D'abord au sein de plantations de café, puis à l'intérieur des maquilas, c'est le nom donné en Amérique centrale aux entreprises implantées dans les zones franches. Alors, que sont ces zones franches? Eh bien, ce sont ces espaces qui profitent d'exemptions fiscales, d'exonérations de droits de douane, qui ont des législations sociales au rabais, pouvant aller jusqu'à l'interdiction des activités syndicales. Dans le but de créer des emplois et de lancer un processus d'industrialisation, plusieurs pays du Sud ont établi de ces zones franches à l'intérieur desquelles les entreprises bénéficient de nombreux avantages. Alors aujourd'hui, on dénombre environ 500 zones franches dans 70 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. Quelques 4,5 millions de personnes, dont une immense majorité de femmes, y travaillent dans des conditions souvent très très dures et répressives surtout. Au Salvador, dont nous parle Virginia Hernandez, eh bien au Salvador, quelques 70 000 personnes sont employées dans les zones franches. De ces 70 000, 80% sont des femmes. Elles ont entre 12 et 30 ans et 15% d'entre elles sont des mineurs de moins de 18 ans, dont Virginia Hernandez qui nous parle aujourd'hui. Et elle ajoute, 60% des travailleuses sont des mères célibataires, à cause notamment d'une paternité irresponsable. 30% de ces femmes savent seulement écrire leur nom et 20% d'entre elles ne savent ni lire ni écrire. Et malgré les promesses du gouvernement et de sa foi dans ces zones franches, eh bien le coût de la vie au Salvador a bien sûr fortement augmenté pour le commun des mortels depuis 1990. Par exemple, le prix réel d'une livre de frijoles, les haricots rouges qui sont l'aliment de base de la nourriture au Salvador, eh bien la livre a presque quadruplé en 2 ans. Alors je me suis trompée, excusez-moi, c'est Virginia n'est pas du tout parmi ces mineurs de 18 ans. Au contraire, c'est une femme syndicaliste qui a de l'expérience, âgée de 44 ans. Virginia est sur la liste noire au Salvador et ne peut plus trouver de travail dans son pays. Elle se consacre entièrement et bénévolement à la Comutras, qui est la section femmes du syndicat salvadorien, la Central de Trabajadores Democráticos, CTD, Centrale des Travailleurs Démocrates. Elle a été invitée en Suisse par des organisations comme Solifon et la Déclaration de Berne, et elle a passé à Genève, et à cette occasion-là, elle a accordé une interview à la Déclaration de Berne, et c'est cette rencontre que j'aimerais vous faire partager. Alors, la première question qui lui a été posée, c'est pouvez-vous décrire les particularités des maquilas, donc ces entreprises, ces plantations de café qui existent dans les zones franches. Alors, Virginia Fernandez explique que toutes les entreprises des zones franches du Salvador fabriquent des vêtements dont la plupart sont destinés à l'exportation. Les personnes qui veulent y travailler ne doivent pas avoir plus de 30 ans et doivent accepter un examen médical qui comprend un test de grossesse pour les femmes. Comme il n'y a pratiquement plus d'agriculture au Salvador et que le gouvernement a décidé de moderniser son administration, les maquilas sont quasiment les seules sources de travail. Alors, quelles sont les conditions de travail dans ces maquilas ? Le gouvernement salvadorien a fixé un salaire minimum de 38 colons et demi, c'est-à-dire l'équivalent de 4,5 dollars américains par jour et pour 8 heures de travail. Mais dans les maquilas, les ouvriers sont payés à la tâche. Moi, par exemple, dit Virginia, je mettais des cols à des chemises et à des blouses. Je devais en coller ainsi 1000 en une journée. Et à cette condition seulement, je touchais le salaire minimum. Bien sûr, durant les premières semaines, personne ne réussit à fixer les 1000 cols en 8 heures et beaucoup en viennent à travailler jusqu'à 16 heures par jour. En outre, certaines étapes de la fabrication des vêtements sont dangereuses et les travailleurs n'ont souvent aucune protection. Le travail se fait dans de grandes halles qui sont fortement illuminées avec un plafond bas. Il fait une chaleur absolument étouffante sans ventilation. Pendant la haute saison, qui va de août à février, il faut faire des heures supplémentaires obligatoires et celles qui refusent de les faire sont licenciées, bien sûr, ou se voient refuser la paye d'une semaine de travail. Les ouvrières travaillent donc en moyenne 14 heures par jour pour arriver au premier quota. Ensuite, elles ont droit à une heure de pause, puis elles doivent recommencer à travailler jusqu'à l'arrêt des machines à 2 ou 3 heures du matin pour ne gagner que 4,5 $ supplémentaires. Alors, comment est-il possible de supporter un tel régime ? Virginie explique que dans l'entreprise où elle travaillait, la patronne ramenait des États-Unis des pastilles qui empêchent de dormir et donnent envie de travailler. Elle nous les donnait avec du café noir, explique Virginia. Après 3 jours de rythme cadencé, n'en pouvant plus, j'ai pris l'une de ces pastilles avec une tasse de café. Durant 4 jours, je n'ai pas dormi. J'étais très tendue, je n'avais pas sommeil et je vomissais. Je suis allée consulter un médecin qui m'a dit que c'était un type de drogue. Alors, qu'est-ce qui a décidé Virginia Hernandez à se mobiliser et à organiser un syndicat avec ce groupe spécial Femmes ? Virginia explique « En commençant à travailler dans la maquila des Otranz Acarias, j'ai été choquée de voir les ouvrières les plus jeunes, qui sont âgées de 14, 15 ou 16 ans, qui se faisaient battre par la patronne parce qu'elles ne travaillaient pas assez vite. J'étais tellement indignée, explique-t-elle, que j'en ai parlé à deux de mes collègues qui avaient été elles aussi frappées. Nous avons décidé de chercher des appuis extérieurs auprès de la centrale des travailleurs démocrates. » Quand nous avons été une soixantaine, nous avons voulu nous constituer en un syndicat légal. Nous avons donc remis toute la documentation nécessaire au ministère du Travail. Et là, surprise, trois jours plus tard, ce ministère avait transmis la liste des 60 ouvrières à la direction de notre entreprise Otranz Acarias. Et nous avons toutes été licenciées, les 60, le 8 mars 1992. Un mois plus tard, cependant, nous apprenions que l'usine allait être vendue à un Coréen. Nous avons alors décidé d'organiser une grève et nous avons réussi à entrer dans l'usine grâce à la complicité du portier de l'entreprise. Et c'est ainsi que nous avons pu rallier 300 autres ouvrières à notre syndicat en quelques heures. Et les patrons ont finalement été obligés de négocier, notamment parce que nous avions pris la précaution de demander la présence d'un représentant des droits de l'homme et de l'ONUSAL, qui est la mission des Nations Unies, chargée de maintenir la paix et de vérifier le respect des droits de l'homme au Salvador. Alors, qu'est-ce que ça a changé depuis que le syndicat est présent à l'intérieur de l'usine ? Eh bien, dit Virginia, il fait du bon boulot. Les employés ne sont plus frappés et la patronne sait que je vis près de l'entreprise, je suis immédiatement au courant de tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Nous avons demandé à Virginia, que cherchez-vous à obtenir plus généralement pour les maquilas ? Nous demandons, dit Virginia, qu'on ne travaille pas plus de 8 heures par jour, ni plus de 6 jours par semaine. Chaque heure supplémentaire doit être payée, comme la loi salvadorienne le prévoit, c'est-à-dire 10 colones et demi, c'est-à-dire 1 dollar et demi durant le jour et 2 dollars durant la nuit. Nous demandons aussi que les mineurs de 14 à 18 ans ne travaillent pas plus de 6 heures par jour pour toucher le salaire minimum, de sorte qu'ils puissent avoir accès aussi à une formation. Alors, quel intérêt ont les entreprises à s'implanter dans ces zones franches ? Eh bien, comme on l'a expliqué tout à l'heure, les entreprises ne payent ni impôts ni taxes pour importer ou exporter. Les seules choses qu'elles payent sont le téléphone, l'électricité, le loyer. Et jusqu'en février 1996, les zones franches au Salvador étaient extraterritoriales. Elles n'étaient donc soumises à aucune loi. Elles n'étaient tenues de respecter ni la constitution salvadorienne, ni la loi du travail. L'année dernière, il y a eu tout un mouvement de lutte soutenu par les députés du FMLN, c'est-à-dire le front de l'opposition, le front Farabundo Martí para Liberación Nacional, c'est le front de l'opposition, qui aboutit à l'instauration de la loi des zones franches. Et cette loi est un peu plus contraignante pour ces entreprises que la loi salvadorienne. Par exemple, si une maquila ne respecte pas la liberté syndicale, la loi prévoit 3 sanctions, la plus sévère après récidive, allant jusqu'à la confiscation des bénéfices. Alors comment Virginia Hernandez voit l'avenir au Salvador ? Eh bien, dit-elle, le problème, c'est qu'au Salvador, il n'y a pas de source d'emploi en dehors de ces maquilas. Et nous ne voulons pas que les maquilas s'en aillent, mais nous voulons un travail digne. Nous voulons qu'on respecte nos droits fondamentaux et syndicaux. Vous pouvez retrouver cette interview plus complète dans le numéro de ce mois, janvier 1997, qui sortira dans Vers un développement solidaire, qui est le bulletin de la Déclaration de Berne. We'll be right back.
habla, ¿para qué? Las digo yo. No fue para fregar platos.